Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, sujet qui fâche, les devoirs à la maison. Quand arrive l'heure des devoirs, arrive le désespoir. On pourrait inventer tellement de dictons sur les devoirs, je pense. Alors comment suivre son enfant, l'aider sans s'énerver? Pas évident quand on n'est pas un professionnel de l'éducation. Certains parents disent que les week-ends se transforment en cauchemar. Alors comment aborder le problème? Comment organiser au mieux ces moments? Nous allons en discuter avec nos invités. Une spécialiste de la parentalité positive. Bonjour Véronique Massier-Jacques.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bon, c'est un peu de la psychologie positive, on va dire.
Oui, 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 tout à fait.
Vous publiez « Il ne veut pas faire ses devoirs ». Vous êtes consultante en parentalité. Vous avez aussi un site internet « Maman positive ».
Oui, on peut retrouver les informations, les conférences ou les formations que je dispense aux adultes.
Et vous avez commencé par galérer avec vos propres enfants,
oui,
et les devoirs.
Oui, exactement. Donc, dans l'avant-propos, c'est ce que je précise.
Parce que vous êtes une ancienne très bonne élève, donc vous ne connaissiez pas le problème.
Mais je pensais que ça allait rouler avec les enfants. Et bien, pas du tout.
Marie Herzog, bonjour.
Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Enseignante, institutrice. Vous aimez bien dire institutrice, hein, d'ailleurs.
J'aime bien dire institutrice ou maîtresse d'école.
À la retraite, ouais. Vous venez de prendre votre retraite il y a quelques
mois.
Donc, 38 ans de métier, c'est ça.
Oui.
Dans une école élémentaire publique. En région parisienne. Et vous avez encore dans l'oreille les plaintes des parents à propos des devoirs, des leçons?
Pour certaines familles, oui. C'était un petit peu délicat. Voilà, pour différentes raisons. Mais je pense qu'à partir du moment où on réussit à bien communiquer avec les parents, il est en général toujours possible de trouver une solution, une manière de
sortir du conflit.
De sortir du conflit et de déstresser.
Parce que le premier mot qui vient souvent, hein, c'est le conflit, hein, chez les parents quand on parle des devoirs. Alors, bien sûr, quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous, n'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous dès maintenant pour nous poser toutes vos questions, que vous soyez parents, grands frères d'ailleurs, ou enseignants. Et bien sûr, aussi, vous postez tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Là, je vous lis quelques messages. Mahamadou qui poste. Alors, il est dans le nord-est de l'Algérie, à El Tarfi. Il est malien, apparemment, parce que Mahamadou nous dit au Mali, il est rare que les parents regardent le cahier de leurs enfants. Alors, pour l'aider à faire ses exercices, bonne chance. Personne ne suit la scolarité de son enfant, d'où une baisse de niveau d'études dans le pays. Les parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants. Triste réalité. Bon, en France, il y a plutôt une grosse pression des parents, mais en même temps, les parents travaillent beaucoup aussi.
Les parents travaillent beaucoup, ils ont dans l'ensemble un intérêt et ils suivent la scolarité de leurs enfants. Il est évident que pendant la semaine, c'est pas toujours facile, les journées sont longues pour les parents. Après, il faut chacun s'organise et peut participer plutôt en fin de semaine ou pendant les petites vacances. Quant à la réalisation, au suivi et à l'intérêt. Mmh. Mais je pense que chaque famille est consciente qu'elle doit avoir un suivi et réussir à s'organiser.
Même si c'est seulement le week-end, ça compte
même
beaucoup.
Même si c'est seulement le week-end.
Mohamed est à Bamako, il nous dit « Quand vous demandez à votre enfant d'apprendre ses leçons pour le lendemain, vous avez gagné s'il ouvre son cahier. À mon époque, les enfants apprenaient leurs leçons par cœur, pas parce que c'était demandé, mais par crainte du châtiment. »
Oui. Alors, mais je me retrouve un petit peu dans l'introduction, bon, pas par la peur du châtiment, mais parce que moi, j'avais aucun souci quand on me disait qu'il fallait apprendre. Mais oui, j'ouvrais mon cahier et j'apprenais. Donc, quand j'ai commencé les devoirs avec ma fille, je me suis dit, mais super, elle va ouvrir son cahier, elle va apprendre. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle n'aimait pas faire ses devoirs et qu'il y avait des gros besoins derrière. Et c'est ça dont je parle dans mon livre. Moi, je m'intéresse vraiment à qu'est-ce qui se cache derrière quand l'enfant a du mal à ouvrir son cahier, qu'il ne veut pas le faire. Il y a une raison. Alors, ce n'est pas la même à chaque fois pour chaque enfant, mais on trouve la raison et ensuite, on peut apprendre dans de bonnes conditions et avec le sourire.
Kader à Ouagadougou au Burkina dit « Les devoirs aident énormément les élèves à progresser, il faut les maintenir ». C'est votre avis en tant qu'enseignante ?
Oui, c'est mon avis. D'ailleurs, il y a un texte dont on parle souvent de 1956 qui est très vieux, qui interdit les devoirs à l'école.
Mais oui, en fait, renouvelé en 65 d'ailleurs, circulaire.
Oui, mais en fait, les inspecteurs nous encouragent à donner quelques petits exercices pour entériner une leçon.
Oui, ça c'est tout le paradoxe de l'éducation nationale
voilà,
en France.
Voilà, qui publie aussi un guide pour les parents pour l'aide aux devoirs. Il est bien sûr interdit, tout enseignant doit s'interdire de donner un travail qui n'a aucun lien avec ce qui est étudié en classe, de même écrire, rédiger une rédaction.
Ça c'est pour l'école primaire, après au collège évidemment qu'il y a des devoirs et le problème reste posé hein, d'ailleurs au collège. Au lycée on part du principe que les élèves se débrouillent
autonomes,
tout seuls,
oui.
Mais en réalité au collège les parents doivent surveiller
les parents
de près ou de loin
surveiller.
Les devoirs.
Maintenant même en école élémentaire, beaucoup d'enseignants écrivent les devoirs sur Internet. Donc les parents ont accès, de même que pour les dossiers scolaires.
C'est bien ça, vous trouvez ?
Tout dépend après comment les parents, ce que les parents font.
Pour les élèves qui notaient mal leurs devoirs dans leur cahier de texte, ça enlève
une difficulté. Et qui cachaient des choses aux parents, les parents sont tout de même informés. Après, chacun le gère à sa manière.
Milliards le voisin. C'est sur RFI.
Vous le disiez, Véronique Massier-Jacques, ceux qui font leurs devoirs le plus sérieusement, ce sont ceux qui sont déjà de bons élèves et qui justement pourraient s'en passer finalement.
Oui, ou je crois que c'est ceux qui... Alors, il y a pas mal de choses, parce que moi finalement, en réfléchissant à la scolarité de ma fille, je me suis replongée dans ma scolarité. Et je me suis dit, mais finalement, elle n'était pas si rose que ça. Parce que moi, je faisais très bien mes devoirs et j'en faisais même plus. Et je me suis rendu compte pourquoi ce que je voulais faire avant tout, c'était faire plaisir à mes parents, faire plaisir à l'enseignant et avoir des bonnes notes. Et j'avais des bonnes notes, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de notions, je ne les avais pas comprises. J'avais les bonnes notes parce que je savais exactement...
Vous étiez dans le par cœur.
J'étais dans le par cœur et je savais exactement ce que l'enseignant allait demander. Donc je savais quelle réponse donner. Et ça, mais très très loin dans ma scolarité, hein, jusqu'à la faculté. Et puis finalement, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai retenu ? Qu'est-ce que j'ai vraiment appris ? Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je veux pour mon enfant ? Est-ce que je veux qu'elle ait des bonnes notes ou est-ce que je veux qu'elle comprenne ce qu'elle apprend.
Est-ce qu'il y a parfois un malentendu, Marie Herzog, entre les enfants, les élèves, l'école, les enseignants et les parents ?
Un malentendu
sur ce sujet des devoirs. Où les parents ne comprennent pas bien ce que l'enseignant attend de leur enfant.
Parfois, oui. Donc, dans ces cas-là, il faut immédiatement... les recevoir, leur expliquer s'ils se sentent un peu maladroits dans la manière de procéder avec leurs enfants.
Quelles sont les erreurs que vous avez repérées tout au long de votre carrière des parents
Des parents qui demandent beaucoup trop, qui demandent beaucoup trop de temps, qui exigent pendant des heures pour des petits, à rattraper des choses qu'ils estiment mal acquises.
Des heures, vous parlez des week-ends, par
pendant
exemple.
Le week-end, même le soir. Et là, il faut intervenir parce que les enfants sont fatigués. Les devoirs à l'école élémentaire, ça va de un quart d'heure à une demi-heure, trois quarts d'heure.
Le soir.
Un quart d'heure pour les petits qui revoient leur page de lecture.
Oui. Et en dernière année d'école primaire.
Bien sûr, c'est une question d'enfants. Il y a des enfants qui s'y mettent immédiatement. Ils ont compris maximum, je dirais, entre un quart d'heure, une demi-heure. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants qui traînent et qui ont une nature lente, pour qui ça commence le matin au lever. Moi, j'ai rencontré des parents qui me disaient « Mais c'est pareil pour le faire manger, pour s'habiller, pour... » Donc après, c'est des...
La lenteur de l'enfant, ça, c'est vrai que c'est souvent un problème qui est évoqué.
Oui, je crois que c'est important, ce que dit Marie, de préciser la durée. Voilà. Marie était enseignante, elle dit voilà, entre 15 et 30 minutes en école primaire, c'est la durée. Et je crois que c'est vraiment important, j'insiste dans mon ouvrage, pour dire que l'enseignant, le parent et l'enfant, c'est vraiment un travail d'équipe. Et dès le début de l'année, d'aller voir l'enseignant, puisqu'il y a des réunions pour se présenter, qu'est-ce que vous mettez dans les devoirs ? Comment est-ce qu'on pourrait aider notre enfant ? Combien de temps vous jugez qu'il soit utile de travailler avec mon enfant ?
Il faut poser ces questions-là à l'enseignant, y compris au collège d'ailleurs, au professeur principal, il faut poser ces questions-là.
Oui, pour que les choses soient claires. Parce qu'après, il y a des malentendus qui se créent. Il y a des parents qui s'énervent de leur côté en disant ben, « il n'y a pas assez de devoirs » ou « il y a trop de devoirs » ou « qu'est-ce que c'est que ces devoirs ?» Et il y a un manque de communication. Donc vraiment, dès le départ, qu'est-ce que vous entendez pour les devoirs? Comment vous voulez qu'on aide? Est-ce que vous voulez que les devoirs soient faits? Est-ce que vous voulez que les devoirs soient parfaits? Est-ce que les devoirs que vous donnez, normalement, il y a eu des notions qui ont été apprises en classe ou c'est des découvertes pour l'enfant? Enfin, faut vraiment que les choses soient claires parce que les parents, moi, je les vois quand je discute avec eux, ils sont complètement, ils me disent, mais des fois, je ne sais pas si la notion, elle a été vue, s'il faut que je la voie, si c'est des révisions, enfin, ils sont perdus. Mais alors, il faut en parler à l'enseignant.
Marie Herzog.
À l'école élémentaire, toutes les notions ont été vues. Alors après, des enfants sont très attentifs.
C'est une révision le soir.
Ils captent. Le soir, ce sont des révisions.
Oui. Pour ceux qui ont bien écouté. Pour ceux qui ont bien écouté. Pour les autres, alors, c'est une découverte
après,
ce soir.
Parfois, les parents peuvent avoir l'impression que c'est une découverte. La notion n'a pas été vue, mais en principe, les enseignants s'interdisent de... Enfin, on n'a pas le droit. Là, ça fait vraiment partie du texte de 1956.
Oui, non, mais pour les élèves en difficulté. Et le pour propre les de l'élève en difficulté, c'est que le soir, il découvre, en fait.
Voilà. Donc là, il faut communiquer avec l'enseignant, faire confiance à l'école et faire appel à des heures de... Il y a des accommodements, du soutien.
Oui.
Je pense qu'il y a toujours une
difficulté qui montre, dès les premières années d'école primaire, des difficultés scolaires. Les devoirs, c'est vraiment le moment pour raccrocher les wagons, pour rattraper ce qui s'est mal passé. Il y a vraiment un enjeu fort au moment des devoirs, que ce soit le week-end et le soir, pour un élève en difficulté scolaire.
Oui, parce que s'il est en petit groupe, avec un enseignant, enfin avec un professionnel, si les parents font appel, même avec les parents, s'il y a un bon climat de confiance. Moi, j'ai le cas d'enfants étrangers dont les mamans parlaient à peine la langue française, qui venaient chercher leur élève, leur petit à la sortie de l'école. Il y a un bon climat où l'enfant raconte dans sa langue, etc., le goûter, éventuellement un petit passage au parc de jeux. Et après, l'enfant, il est...
Ça se passe bien, oui.
Tout seul. C'est aussi... La famille, c'est tellement important.
Alors justement, on va en parler.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Nous accueillons un papa, Claude, 37 ans, à Douala, au Cameroun. Bonjour Claude.
Bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir.
Mais on est ravis, on est là pour ça. Claude, vous avez la parole, vous êtes papa de 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 11 ans, c'est ça?
C'est bien ça, c'est bien ça Emmanuel. Mais permettez-moi Emmanuel de dire merci à vos invités qui prennent de leur temps pour venir nous prodiguer des conseils. C'est un grand salut à tous les techniciens et à l'assistance de Camille.
Oui, d'accord, merci.
J'entre dans le vif du sujet. En principe, comme vous l'avez dit, je suis père de 3 enfants, j'ai 37 ans, je suis à Douala. Eh bien, comme on le dit jamais assez, les enfants, il faut les mettre en confiance, il faut être présent, il faut être affectif. Oui, eh bien, pour ça réunir, on n'y arrive pas quelquefois toujours.
C'est ça. Vous avez dit à Camille qui est au standard que c'est quand même un moment de tension, que vos enfants sont souvent bloqués, que vous avez un problème pour les motiver, etc. Expliquez-nous ce qui se passe à la maison. C'est vous qui suivez vos enfants scolairement, Claude?
Dans tous les cas, moi, je les apporte mon soutien que je peux.
Oui.
Il fallait qu'après l'école, je les suis à la maison. Mmh. Question de les mettre dans le fil de l'école.
Oui.
Il fallait qu'ils soient, comme tous les parents, on voudrait que nos parents soient dans les premiers rangs.
Oui.
Et pour cela, moi, je m'y mets également.
Mais alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille que vous avez qui a 3 ans, le plus petit.
C'est la plus petite, elle a 3 ans.
Bon, mais là, la question ne se pose pas. Il n'y a rien à faire. Elle est à l'école maternelle.
C'est ce que votre assistant m'a dit, je lui ai dit non.
C'est-à-dire?
Ils ont effectivement quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'ils ont les devoirs de visuel,
des points. Oui.
Oui, c'est-à-dire dessiner une tête, faire un point, faire des traits horizontales, etc.
Ah
bah, il faut lui tenir.
Ah oui. Ah oui, donc ça s'appelle des devoirs. Voilà. À 3 ans, votre fille a des devoirs.
Oui, évidemment. Oui, évidemment. C'est peut-être un peu curieux, mais au Cameroun, c'est comme ça.
Oui. Et elle est contente de faire ses devoirs ou elle n'en a pas envie quand elle rentre de l'école?
Dans tous les cas, on lui laisse tout le temps lorsqu'elle rentre de l'école, le temps de prendre un petit repos. D'ailleurs, je me mets avec la maman parce que quand ils rentrent, ils sont avec la maman et la maman essaie de les tenir. Et puis le soir, quand je rentre, j'essaie de me remettre, je me débarrasse de ce que j'ai pu faire dans la journée.
Oui.
Et puis je me remets à eux.
Oui.
J'essaie de voir ce qu'ils ont fait.
Vous avez des questions précises à poser, en fait. Hein. Vous interrogez sur votre façon de faire.
Voilà, je m'interroge sur ma façon de faire. C'est-à-dire, il y a des moments où tout marche bien. Et puis après, lorsqu'ils sont bloqués, alors là, ils ne veulent pas continuer. Et à ce moment, je suis obligé de monter un temps de tension pour les faire comprendre que le papa qu'ils connaissent n'est pas le même quand on fait des devoirs. Donc, j'essaie d'être un peu nerveux. Et quelquefois, je suis tenté d'être... Je suis vraiment sévère.
Oui.
Ils sont là, c'est comme moi que c'est plus le papa qu'ils connaissent. Et
ça,
là,
d'accord.
Je me pose la question, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que ça n'a pas des répercussions? Qu'est-ce qu'il faut?
D'accord, donc au moment des devoirs, le papa qu'ils connaissent n'est plus le même papa. Bon.
N'est plus le même.
Alors, commentaire de nos invités.
Moi, je vais dire bonjour Claude, c'est Véronique là,
bonjour,
vous écoute.
Madame.
Alors Claude, bravo déjà parce que vous avez commencé, vous avez dit voilà, être affectif, mettre en confiance les enfants et j'ai envie de dire vous avez tout compris. Alors quand vous me dites je deviens le papa un petit peu plus sévère et pas le papa qu'ils connaissent, moi j'ai envie de dire mais quel dommage Claude, quel dommage.
C'est-à-dire que concrètement vous faites quoi? Vous criez?
Non, je dis là on s'amuse pas, tu fais ton devoir ou alors... Je te punis.
Alors, moi, je vais rebondir, Claude, sur deux mots. Premièrement, on ne s'amuse pas. Alors, les enfants, moi, je vais dire si, justement, on va s'amuser. On apprend beaucoup mieux quand c'est ludique, quand on s'amuse. Et ça, c'est valable pour les enfants et les adultes. Donc, trouvons donc le côté ludique dans les apprentissages. Le stress n'est absolument pas bon, le mauvais stress pour les enfants. Ils se bloquent, c'est physiologique dans leur cerveau et ils apprennent moins. Donc, en général, quand on les stresse, ça va être au lieu de mettre 5 minutes à faire un devoir, on va mettre beaucoup plus de temps. Et puis nous, on va s'énerver et puis on va rompre le lien qui nous lie à nos enfants et c'est pas le but.
Comment trouver un aspect ludique à un exercice de calcul, par exemple? Quand il faut apprendre ces tables de multiplication, vous faites comment?
Alors, l'étape de multiplication, on peut le faire sous forme de jeu, on peut le faire aussi sous forme en s'interrogeant. C'est-à-dire, toi, tu m'interroges aussi, et puis moi, je t'interroge. L'enfant est ravi quand il a pu nous piéger et qu'on s'est trompé. Donc, restons dans cette forme d'apprentissage. On peut essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque l'enfant. Encore une fois, moi, je m'en remets aux besoins. Alors, vous l'avez dit, Claude, justement, on laisse les enfants se détendre. Donc, vous répondez aux besoins de repos, de jeu. Après, l'enfant a peut-être besoin de se reposer. L'enfant a peut-être besoin de sens. C'est-à-dire, quel sens vous mettez dans les devoirs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et dites-le à vos enfants. Parce que parfois, les enfants ne veulent pas faire les devoirs parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité. Donc, à vous de trouver l'utilité. Tu vois tes multiplications. Si après, je ne sais pas, en fonction du métier qu'il veut faire, ça va te servir. Ou tu vois, grâce aux multiplications, moi je peux aller faire mes courses au supermarché. Donc vous pouvez par exemple jouer à la marchande. Il y a des enseignants qui font ça dans leur classe. Plutôt que d'écrire tout simplement 3 x 4 égale combien, on joue à la marchande. On dit, t'as ça comme argent, qu'est-ce que tu peux m'acheter? Et on fait des multiplications sans s'en rendre compte.
Introduire le jeu, Marie Herzog.
Oui, introduire le jeu, d'autant plus avec ces deux petits-enfants de 3 et 6 ans.
Et 11 ans, le dernier.
Et 11 ans. Le jeu est très important. Il y a des manières d'apprendre, par exemple, les tables de multiplication avec les doigts. Elles sont dans tous les bons livres de mathématiques, voilà. Vous avez aussi des cartes, des jeux de cartes comme des mémories, des dominos. Et par le biais du jeu, je pense que l'atmosphère sera plus détendue. Les enfants entérineront leur leçon.
Donc ça peut être par exemple un jeu pour démarrer les devoirs et puis ensuite passer à autre chose, à quelque chose d'un peu plus classique, mais ne serait-ce que ça a changé l'atmosphère finalement.
Ça a changé l'atmosphère. Mais oui, une manière plus classique. Mais à cet âge-là, 11 ans, c'est CM2 collège. Peut-être il y a plus de choses écrites, mais pour les petits de 3 à 6 ans, ça peut rester sous forme de jeu.
Or, Claude, est-ce qu'on vous aide avec ces conseils avant qu'on rende l'antenne pour le flash?
Pas vraiment, vraiment. Vous m'aidez beaucoup. Seulement, je voudrais absolument le mettre en pratique. Vraiment, c'est beau, mais hélas, quelquefois, on perd la tête quand on est devant nos enfants.
Allez. Alors, il faut rester patient et puis démarrer par une bonne ambiance et quelques jeux. Ça peut changer effectivement la façon de démarrer le travail avec ses enfants. Merci à vous, Claude. On se retrouve juste après le flash dans 3 minutes maintenant. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi, les devoirs à la maison, comment suivre son enfant, l'aider sans s'énerver. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On en discute avec vous, Véronique Massier-Jacques. Vous publiez « Il ne veut pas faire ses devoirs ». Vous êtes consultante en parentalité. Marie Herzog, vous êtes enseignante, institutrice. Vous venez de prendre votre retraite et vous nous parliez effectivement des relations également avec les parents, tantôt forte pression des parents, tantôt forte pression scolaire aussi pour que les parents fassent réussir leurs enfants. Donc le triangle entre l'école, les parents et les enfants, évidemment, intervient dans ce problème des devoirs à la maison. Je vous lis le message de Charles qui est à Gisagara, qui est dans l'est du Burundi. Il nous dit « Le problème chez moi, c'est que beaucoup de parents sont illettrés. Ils sont donc incapables de suivre ce qui se passe dans la scolarité de leurs enfants et ils n'ont pas les moyens de payer un tuteur. Est-ce que réellement, on ne peut rien faire pour suivre la scolarité de ses enfants lorsque soi-même, on n'a pas été scolarisé ?
Je pense qu'on peut y parvenir. Prenons l'exemple même de familles ici chez nous, dont les enfants apprennent une première langue, qu'ils commencent en élémentaire. Même si ses parents n'ont pas appris cette langue à l'école, ce n'est pas une raison pour dire je ne peux pas l'aider. En fait, il faut que les conditions soient propices et l'enfant peut ensuite, de manière autonome, revoir les leçons de vocabulaire ou de découverte de civilisation s'il a été relativement attentif en classe.
Et les conditions propices, ça commence par le repos, un goûter à la sortie de l'école, c'est quoi
ou
les
conditions ? Ou pas, parce que oui, alors on parle des besoins physiologiques, c'est vrai qu'il y a déjà des besoins physiologiques, donc ça peut être le besoin de manger, mais pas forcément, puisqu'il y a des parents qui disent « Alors oui, mais moi, mon enfant, il prend un bon gros goûter, mais après, il ne veut pas se mettre au devoir. Bah, » peut-être qu'il n'avait pas envie de manger cet enfant.
Sous-entendu, il a trop mangé, il a envie de dormir,
mais exactement, exactement. Donc, il faut savoir écouter l'enfant. Le besoin de boire aussi est très important. On a tendance à l'oublier. Alors, je parle de boire de l'eau. Hein. Notre corps est composé à 80% d'eau. Et en général, quand on est déshydraté, quand on a soif plutôt, quand on dit bah, « Tiens, j'ai soif », c'est qu'on est déjà déshydraté. C'est déjà tard. Et notre cerveau, pour bien fonctionner, eh bien, il a besoin de boire. Donc, c'est régulièrement proposé à boire à l'enfant. Et c'est ce que j'aime avec certains professeurs avec qui je travaille, c'est qu'ils proposent de l'eau à disposition. Il y a un lavabo dans la classe et que les enfants ont le droit de se lever et de boire quand ils en ont besoin. Plutôt que de dire, bah non, bah, t'attendras midi pour boire. Je crois que c'est vraiment très, très important. L'idéal, c'est de donner vraiment un verre d'eau à son enfant et dire, bah voilà, tu bois un petit peu toutes les 20 minutes. Mais voilà, tu réoxygènes ton cerveau. Et après, c'est plus simple, tu y vois plus clair, toi aussi, pour travailler.
Donc, c'est bien de leur expliquer, en fait, pourquoi telle chose ou telle chose
bien
est importante.
Sûr. Non, et puis c'est vrai que moi, quand j'ai expliqué à mes enfants, quand je leur ai dit, bah, tu vois là, tu as soif, c'est déjà que tu es déshydraté, c'est déjà un peu tard. Elle m'a dit, ah bon ? Voilà, c'est des petites choses, donc oui, bois avant d'avoir soif.
On accueille Brahima qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Brahima.
Bonjour Emmanuel.
Brahima, vous êtes papa de 2 enfants, 2 ans et 8 ans, c'est bien cela ?
C'est ça Emmanuel.
Donc c'est celui de 8 ans qui est concerné par les devoirs ?
Absolument.
Oui. Alors, comment ça se passe chez vous ?
Bah, chez moi, je me contente simplement de vérifier que les leçons sont bien copiées. Et bien, pour les devoirs et les évaluations, je les confie simplement à un répétiteur.
Donc, il y a un répétiteur qui vient chez vous le soir après l'école ou le week-end ?
Bon, il vient 3 fois par semaine.
Oui.
Et puis, bon, je le laisse l'enfant à ses bons soins. Parce que moi, personnellement, je vais rebondir sur ce que le voisin Claude a dit.
Oui.
Il a dit qu'on doit mettre l'enfant en confiance.
Oui.
On doit le motiver et surtout éviter de le stresser. Mais c'est là tout mon problème, parce que je suis quelqu'un de nerveux. Je suis assez nerveux et impulsif, donc j'ai peur de dérouter l'enfant pour la suite de sa scolarité.
Ah, vous êtes nerveux, impulsif. Donc vous dites que vous allez stresser votre enfant, en fait.
J'ai vraiment peur de le faire.
Et du coup, avec le répétiteur, comment ça se passe ? Mieux qu'avec vous ?
Oui, bon, lui, il est déjà bon ami avec le copain, puisqu'il a reçu une formation déjà.
Oui.
Il sait comment le faire. Il est exactement comme le dit votre invité sur le plateau. Il sait vraiment être ami avec les enfants, il les met en confiance. voilà, moi je me contente de fournir le matériel nécessaire pour l'encadrement de mon enfant.
Oui, oui. Mais vous êtes finalement comme beaucoup de parents qui s'estiment pas formés, hein, finalement, pour suivre les devoirs de son enfant par rapport aux qualités d'un répétiteur, d'un enseignant, Véronique Massier-Jacques.
Mais moi, Brahima, bonjour Brahima. C'est Véronique.
Bonjour Véronique.
Oui, bah Brahima, j'ai juste envie de vous dire bravo. Bravo parce que vous connaissez vos limites. Vous avez peur d'être impulsif, de stresser vos enfants. Vous n'avez pas envie de gâcher le lien qui vous lie à eux. Donc vous vous dites, bah, pour les devoirs, je laisse faire quelqu'un d'autre qui s'y prend mieux que moi. Mais je vous dis, bravo, c'est très bien, c'est la bonne méthode à suivre.
Voilà. Merci alors. Il y a beaucoup qui appréhendent ça comme une démission, mais bon, je crois que ce n'est pas vraiment une démission.
Ah, pas du tout, il ne faut pas culpabiliser.
Façon, je préfère vraiment lui laisser aux soins du répétiteur qui a reçu une formation pour ça.
Et surtout si ça se passe bien, si votre enfant est content, parce que du coup, vous faites quelque chose dans le plaisir avec votre enfant à la place, non? Vous allez peut-être vous promener, vous choisissez une activité.
Tout à fait.
Oui, qu'est-ce que vous faites avec votre enfant, du coup?
Moi, j'exploite les temps libres qui ne sont ni aux soins du répétiteur, ni des enseignants à l'école.
Oui.
Je profite de ça, et on fait des balades souvent dans les boutiques, ou bien, bon, en tout cas, à travers les affaires de la ville.
Oui, d'accord. Vous allez vous promener avec vos enfants, voilà. À la place.
Vous prenez du bon temps.
Oui, et vous parlez, du coup, avec vos enfants, mais pas forcément
c'est ça.
Notes et de l'école.
Bon, il arrive qu'on cause de ça, mais bon, pas. En ce moment, je ne suis pas dans la peau de l'enseignant ou du répétiteur.
Ouais.
C'est juste le copain qui veut comprendre comment ça se passe à l'école, quoi.
Ah oui, d'accord.
Mais moi, je trouve ça parfait. C'est vraiment bien parce qu'il y a des parents qui s'évertuent à vouloir continuer à travailler avec leurs enfants parce qu'ils culpabilisent et ça se passe mal et ils cassent le lien qui les lie à leur enfant. Ils se disent « Oui, mais non, je ne veux pas démissionner. » Mais ce n'est pas une démission. C'est reconnaître ses limites. C'est dire à ses enfants « Bah voilà, moi, je n'ai pas envie de casser ce lien qui nous lie. Je sens que je n'ai pas la bonne méthode avec vous pour travailler. »
C'est bien d'en parler avec l'enfant, ça, de lui expliquer pourquoi on a pris un répétiteur de ses propres limites.
Oui, oui Brahima, c'est bien de préciser à vos enfants pourquoi vous faites appel à un répétiteur. Parce que vous n'avez pas envie de gâcher cette belle relation que vous avez avec eux. Vous avez envie de passer un bon moment, vous connaissez vos limites, vous sentez que vous n'êtes pas le meilleur pour leur faire leur devoir, donc vous passez le relais. C'est vraiment une grande force, Brahima.
Marie Herzog.
Alors, je trouve ça formidable que vous vous réserviez la meilleure part du gâteau, mais et il ne faut surtout pas culpabiliser. Comme disait Véronique, c'est merveilleux que vous ayez trouvé quelqu'un qui puisse vous décharger de ces moments de stress. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas complètement vous couper du travail scolaire de votre enfant et qu'il faut qu'il vous montre aussi ce qu'il a fait, que vous ayez un suivi et le fait que vous ayez un intérêt pour ce qu'il a fait.
Donc regardez les cahiers par exemple.
Voilà, regardez les cahiers, qu'il vous montre un peu, qu'il vous explique quelles sont les nouvelles leçons qu'il a faites, etc. Je pense qu'il faut que vous gardiez un lien à ce niveau-là.
Oui, sous forme de moment d'échange.
Voilà,
en fait,
sous forme de moment d'échange, pas d'évaluation. Les enfants ont droit d'avoir des hauts, des bas, mais il doit comprendre que vous avez pris quelqu'un pour que ça se passe au mieux, mais vous devez garder le lien au niveau du travail qui est fait, des découvertes, et il peut vous en parler à l'occasion de sorties, de moments complètement informels, pas spécialement avec les cahiers à la pluie. Voilà.
Brahima, ça peut vous aider, ça, pour la suite, pour vous conforter?
Il n'y a vraiment pas de souci. C'est très aimable à vous, tous ces conseils. Et je peux vous assurer qu'il y a déjà ces petits liens-là qui existent.
Merci beaucoup, Brahima, en tout cas, de nous avoir appelé de Ouagadougou. On prend une auditrice, Bintou, qui est à Douala, au Cameroun.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, j'ai suivi le sujet du jour. Ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, j'ai pris un petit neveu avec moi, qui est à l'âge de 5 ans. Hein.
Oui.
Ce n'est pas un mot de français. Donc, je l'ai donc inscrit à l'école. Il a commencé par au bas de l'échelle, hein, donc en quatrième section, à la maternelle.
Oui.
Donc là, au cours moyen 2, il avait dit qu'il avait un répétiteur. Au cours moyen 2, il avait lui avoué que lui, il n'aimait vraiment pas l'école. Bon, bref.
Il n'aime pas l'école.
Mais depuis, là, il est... Oui, carrément. Bon, là, il est en classe de quatrième. Mais c'est difficile.
Quatrième année de maternelle, hein, précisons, c'est ça.
Cinq ans.
Non, Attendez, il a quel âge là?
Comment?
Vous avez dit il a 5
non,
ans?
Non, il a 15 ans.
15 ans, ah, d'accord, pardon.
Il a l'âge de 5 ans.
Ah, d'accord, voilà. Donc ça fait 10 ans qu'il est dans votre maison et que vous l'élevez, d'accord. Et 10 ans qu'il n'aime pas l'école, si je comprends bien.
Carrément. Voilà, nous, on est obligés de... On le force, en fait. On a pris des répétiteurs, ça ne marche pas. Moi, de temps en temps, donc j'essaie de le prendre. Mais là, je sens qu'il a, il a l'art de fatiguer la personne qui s'occupe de lui. Alors, il est champion là-dessus.
D'accord, champion de l'épuisement des adultes qui s'occupent de lui.
Ah, mais
bon.
Je vous assure, c'est compliqué.
Ouais.
Là, j'essaie de voir s'il peut au moins atteindre le brevet. Mais le chemin, c'est un vrai parcours du combattant.
Mais alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il a des devoirs à faire et vous vous apercevez qu'il ne l'a pas fait?
Alors,
ou
il a des devoirs à faire. Oui, d'abord, premièrement, voilà, c'est ça, il faut que je contrôle. Mmh. Puis, il fait tellement de fautes. Il n'aime pas lire. Parce que j'essaye un peu de booster son orthographe. C'est pas possible. Il n'aime pas lire. Je lui achète des petits bouquins. Non, franchement, ça ne l'intéresse pas. Lui, parce qu'on l'oblige à lire. Donc, il fait tellement de fautes dans tous les cours, que ce soit les leçons, les cours de maths. Alors, est-ce que déjà en mathématiques, est-ce que peut-être les fautes qu'il fait, c'est ce qui fait en sorte qu'il n'a pas de bonnes notes, je ne sais pas.
Ouais.
Parfois, il comprend le cours, mais l'université, c'est de voilà.
Véronique
Massier, on a l'impression qu'il a bien compris.
Véronique Massier, Jacques, peut-être vous pouvez aider cette voisine Bintou. Est-ce que déjà elle se pose les bonnes questions?
Déjà, c'est vrai que quand j'écoute son bonjour Bintou, hein, forcément je suis triste parce que je me dis waouh, ce petit bout de chou, ça fait 10 ans qu'il est dans le système scolaire, 10 ans qu'il est malheureux, qu'il n'aime pas l'école.
Il n'est pas le seul, hein, ceci dit.
Waouh, forcément, ça me rend triste. Donc je pense que déjà, une bonne discussion avec lui, une bonne écoute, un bon temps d'écoute pour savoir mais qu'est-ce qu'il aime dans la vie, quelles sont ses aspirations, ses rêves.
Et, il aime bien le basket.
Oui, Bintou?
Il aime bien le basket.
Oui, j'ai découvert qu'il aimait bien le basket.
Oui, bah c'est super le basket, oui.
Mais le problème, c'est que quand on ne travaille pas bien en classe... Hein,
ah bah c'est sûr, je comprends bien votre problème. Ce n'est pas le basket qui va lui faire remonter ses notes à l'école.
Non, alors... mais on peut trouver, en fait, Bintou, on peut trouver en s'interrogeant vraiment là. On ne parle plus de l'école, on parle de vraiment lui. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aimerait vivre? Qu'est-ce qu'il aimerait faire plus tard? Et peut-être on peut rapprocher ce projet professionnel qu'il a ou ses passions de l'école en se disant, voilà, je sais que tu n'aimes pas l'école. J'ai bien compris, on va essayer de le plus vite possible, c'est ce que vous disiez Bintou, hein, de le faire essayer d'aller au brevet des collèges et après peut-être de lui faire prendre une autre voie. Mais qu'est-ce que l'école pourrait t'apporter pour réaliser tes projets professionnels?
Ça veut dire que du coup, dans un premier temps, il faut peut-être se décoller du problème numéro un, qui est les mauvais résultats scolaires, lui redonner confiance et du plaisir, etc. et se réoccuper de l'école après, c'est ça finalement?
Il faut chercher en lui, il a certainement des compétences...
Oui.
Il y a certainement des compétences dans un domaine particulier. Essayez d'en faire un projet pour trouver une voie, sûr, la plus courte possible.
Raisons de le complimenter aussi.
Et des raisons de le complimenter parce qu'il a, comme tout être humain, il a des compétences dans un domaine, c'est évident.
Parce que Bintou, là, on vous a beaucoup entendu dire il a une mauvaise orthographe, il n'a pas envie de lire, en maths, c'est pas terrible, il a des mauvaises notes. Donc, vous nous avez brossé un tableau sombre de ce garçon, finalement. Vous ne nous avez pas souligné ses côtés positifs.
J'invente pas. Bon, peut-être que je n'ai pas été assez à son écoute, peut-être. Peut-être que j'ai mis en mal, ça c'est possible.
Faudrait essayer de savoir.
En vous écoutant d'ailleurs, hein, depuis le début, j'ai essayé de capter quelques conseils.
Je vous rassure, on est tous dans la même galère. Hein. Mais par exemple, si vous deviez parler de lui positivement, qu'est-ce que ce serait?
Quand je lui demande d'effectuer un travail domestique, il le fait toujours. Les travaux domestiques, il le fait.
Donc il est hyper fiable, alors, en fait, ce garçon.
Dès qu'il s'agit de l'école, oui. Dès qu'on sort, dès qu'on entre dans le domaine de l'école, vraiment, il dit rien, mais
puisqu'il aime vous aider...
J'aimerais trouver un moyen, vraiment, de lui faire quelque chose.
Marie Herzog, enseignante.
Puisqu'il aime vous aider, qu'il aime participer aux tâches de la maison, etc., peut-être il faut creuser dans ce domaine et voir, trouver une formation courte et éviter de lui parler de l'orthographe, des mathématiques, etc. Et cette compétence, la creuser, en faire un vrai projet, je ne sais pas, dans le domaine de la cuisine, il y a un tas de métiers dans lesquels, je pense, il pourrait se réaliser puisqu'il aime effectuer des tâches avec vous et qu'il ne rechigne pas.
Voilà, et puis essayer de le revaloriser déjà. Hein,
voilà, oui. Par ce biais.
Véronique,
et puis il faut vous rassurer, Bintou, hein, y a plein d'enfants à qui le système scolaire ne convient pas, parce que le système scolaire, on apprend d'une certaine manière et qui ne convient pas à plein d'enfants. Donc le rassurer déjà, ce petit bout de chou, ben oui, le système scolaire, il n'est peut-être pas pour toi, mais tu as des compétences formidables. Regarde ce que tu as comme compétences, donc trouver, regarde tes passions. On va voir comment l'école peut t'aider avec une formation justement plus courte,
un projet,
mais pour te réaliser et trouver tes projets professionnels. Et donc, beaucoup d'écoute pour voir qu'est-ce qui l'intéresse et comment l'école pourrait l'aider.
Voilà. Et ne culpabilisez pas néanmoins Bintou. Si vous appelez, c'est déjà que vous vous sentez très préoccupé
très
par
concerné.
Lui et très concerné. Donc, c'est déjà un très bon signe. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. Nous accueillons Paul, une autre voisine qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazza. Bonjour Paul, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toute l'équipe.
Vous avez un garçon de 4 ans, c'est bien cela, qui a déjà des devoirs?
Exactement. En fait, en Afrique, je pense que c'est un peu partout pareil, les enfants en préscolaire, ils ont des tout petits devoirs. Mmh. J'ai entendu tout à l'heure Claude, c'était pareil, il a des devoirs pour sa fille. Chez moi, c'est pareil, le soir, il a des devoirs.
Oui,
de temps en temps.
Votre enfant est dans une école privée, je présume.
Exactement, oui. Dans une école privée.
C'est ça, donc ça rassure les parents de donner des devoirs à 4 ans.
Personnellement, ça n'a rien à voir avec le côté assurance, mais c'est juste que, bon, j'ai des livres que j'avais achetés. J'ai acheté un bouquin, tout le programme préscolaire.
Oui.
Et donc, c'est assez ludique parce qu'il y a des gommettes, il y a des lettres, il y a des dessins à faire. C'est vraiment le livre, le livre de l'école, en fait. Parce que
Mais alors, quelle est votre question, Claude ? Paul, pardon.
Oui, ma question, en fait, c'est que je m'inquiète un peu parce que tous les jours, lorsqu'il rentre de l'école, déjà, il veut faire des devoirs. Il n'arrête pas. J'ai acheté un livre. C'est un livre c'est un programme annuel. Et nous sommes en décembre. Il a terminé parce qu'il me fout le stress. tous les jours, quand on arrive, s'il ne fait pas les devoirs, il s'énerve, il se fâche.
Ah oui.
Je suis obligée de faire des devoirs avec lui, mais en même temps, lorsqu'il fait ses devoirs, il n'est pas concentré.
C'est-à-dire ?
Il est concentré quelques minutes, il fait bien son devoir, on lui demande de repérer tous les L, de les colorier en bleu, il le fait, allez, tout va bien. Et puis après, il va ailleurs, il revient. En fait, il fait les devoirs vraiment en sautant, disons, la tête en l'air. Mais il veut quand même faire ses devoirs. Et à aujourd'hui, il y a 2 livres de 100 et quelques pages. Il les a tous terminés.
Ah bah oui.
Je ne sais pas si c'est normal.
Ah, c'est l'objet de votre question, d'accord.
Oui, alors bonjour Paul, c'est Véronique qui vous parle. Alors déjà, moi je trouve ça formidable qu'il a envie de faire de devoirs. Est-ce que c'est normal? Vous savez, les enfants, naturellement, aiment apprendre. Et ils ne rechignent pas devant la difficulté, devant les échecs. Il faut voir un petit bout de chou qui apprend à marcher. Il va tomber des milliers de fois sans jamais se décourager et en poursuivant. Donc que votre enfant ait envie d'apprendre et a envie de faire des devoirs, normalement, c'est naturel, c'est la normalité. Donc c'est super. Alors après, donc ne vous inquiétez pas et proposez-lui, surtout répondez à sa demande. Il a besoin de cette richesse, donc répondez à sa demande.
Ah oui, là, il lui fout le stress, hein, comme dit Paul.
Voilà, c'est drôle, c'est drôle. Après, là où je me permettrais de nuancer, Paul, c'est vous dites, oui, mais il est concentré, mais non, il s'en va. Mais c'est pas grave,
oui, il s'en va,
il a envie de faire autre chose, il revient après, il s'amuse, on reste dans l'amusement, et puis il vous demande ça.
Ça, c'est le rythme normal de l'enfant,
mais
en fait, à 4 ans.
Et puis, nous aussi.
Il est encore en pleine phase d'exploration, pas comme un petit qui commence à marcher, mais il est encore en pleine phase d'exploration pour toutes ces activités qui figurent dans les livres que vous lui proposez. Et moi, je trouve ça merveilleux. Vous avez beaucoup de chance. Il faut essayer d'aller à son rythme. Il n'a que 4 ans. Voilà.
Puis j'ai envie de dire, moi aussi, Paul, vous savez, quand je travaille, oui. je travaille 5 minutes oui. à fond, puis tout d'un coup, hop, j'ai besoin de me détendre, donc je quitte mon bureau, je reviens. Enfin, c'est aussi naturel, hein. Faut pas forcément être pendant une heure fixé face à son livre, à son cahier pour travailler. C'est pas ça le travail.
Une enseignante en école maternelle, je ne sais pas si vous-même, Marie, si vous avez eu des enfants en école, des élèves en maternelle, Marie Herzog.
J'ai pas enseigné en maternelle, mais bon,
mais les activités sont censées se succéder.
Elles se succèdent
surtout
à des
pas rites trop longues.
Hein. Ce sont des ateliers. D'ailleurs, dans chaque classe maternelle, il y a différents ateliers qui fonctionnent en même temps.
Ce sont des séquences de combien de temps?
Ça 15, peut aller minutes. 5, 10, 15, ah 20 oui. minutes maximum.
D'accord. Donc, est-ce que ça oui, répond à la question, mais, Paul?
Oui, mais, non, mais excusez-moi. Le problème, c'est que, vous savez, tous les ans, il y a un livre que l'on utilise à l'école. Bon, moi, j'ai anticipé, je l'ai acheté en France, je l'ai ramené. Et normalement, c'est un livre que l'on suit tout au long de l'année.
Oui.
Ben, lui, il a terminé.
Eh ben vous en prenez un nouveau, Paul. Le suivant.
Il n'y a pas de problème, à mon avis.
Et est-ce que je peux vous donner un autre conseil aussi, Paul?
Oui.
Si ce livre est le support de travail de l'école...
Non, pas du tout.
Ah, d'accord. Parce que c'est bien de travailler sur des livres différents, de ne pas déflorer les thèmes de l'école avant qu'il n'aille en classe.
Oui, sinon il va s'ennuyer en
classe. Donc vous,
si
les traits demandeurs, c'est merveilleux, mais il faut essayer de travailler sur des supports différents de celui de la maîtresse.
Oui. Voilà. C'est d'autres livres, en fait, que je prends, tout pour la maternelle, tout pour le CP, en fait.
Mais pas encore voilà. Le CP, il est petit à 4 ans encore. Parce que tout ce
c'est dans cette.
Et puis tout simplement des histoires, lire des histoires, raconter des histoires aussi. Hein.
Lire des histoires, des comptines. Est-ce que vous avez une médiathèque, par exemple, près de chez vous?
Tout simplement une bibliothèque où vous pouvez trouver des livres pour enfants.
Ben justement, à la maison, en fait, il a une bibliothèque, il y a plein de livres d'histoire. Mmh. Et l'autre problème, c'est celui-là. C'est qu'avant de dormir, il a les cinq livres préférés.
Oui.
Barba Papa, le petit chapeau oui. rouge, en fait les cinq. Et avant de dormir, je dois tous les lire, du début jusqu'à la fin.
On vous sent totalement épuisé, Paul, par l'appétit et la curiosité de votre petit garçon.
Mais les enfants aiment...
Tous les jours, je dois lire ça et en plus... Je ne dois pas changer l'ordre oui. de lecture.
Ça, c'est normal. Les enfants, ils aiment les rituels. Hein,
c'est normal.
Oui.
C'est normal.
Mais les cinq, quoi, je suis épuisée, moi.
Bon, alors, Paul, après, vous pouvez discuter avec votre enfant quand même, parce que là, vos besoins interfèrent avec ceux de votre enfant. Et vous pouvez dire à votre enfant, 5 histoires, ça fait beaucoup. On va couper la poire en deux, peut-être 2 histoires par soir plutôt que 5, parce que je ne peux pas suivre mon chéri. Vous pouvez aussi lui dire...
Oui.
Lui demande, c'est normal, mais vous avez le droit aussi d'avoir vos limites.
Merci beaucoup Paul de nous avoir appelé, bon courage, hein, parce que c'est vrai qu'un enfant qui a cet appétit de curiosité, c'est pas forcément non plus simple à gérer. Véronique Massier-Jacques, qu'est-ce que c'est que la parentalité positive? Est-elle accessible à tous les parents finalement?
Alors moi je la résume simplement en disant que c'est le bon sens à suivre. Quand je suis devenue maman, j'ai découvert vraiment un nouveau monde. J'avais plein de principes, plein de beaux idéaux, et puis je me suis rendu compte qu'être parent, c'était un véritable défi. Alors j'ai lu plein de livres, j'étais journaliste, j'ai interviewé plein de professionnels, et puis je me suis rendu compte que j'entendais tout et son contraire. Et à un moment, je me suis dit, stop, je vais essayer de regarder vraiment mon enfant, pas comme un bâton tordu qu'il faudrait que je redresse, mais vraiment comme une belle plante que j'aiderais à s'épanouir, comme un guide. J'ai mis des nouvelles lunettes, j'ai arrêté de me battre, de lutter, j'ai porté un nouveau regard et j'ai suivi le bon sens et j'ai retrouvé ce bon sens naturel que je pense que
on a tous
en nous quelque part. Mais la société, notre éducation, la pression sociale nous a conditionnés autrement et petit à petit j'ai dénoué tout ça et j'ai retrouvé ce bon sens.
Marie Herzog, quelques conseils avant qu'on se quitte, mot de conclusion?
J'ai envie de dire que le plaisir commence à la maison, que si les enfants sont heureux et qu'ils sont dans un bon climat, ils devraient prendre le chemin de l'école avec plaisir et surtout garder confiance dans le monde des enseignants, garder le dialogue. Mon expérience me prouve qu'à partir du moment où le dialogue est sain avec les familles, il est continu, on obtient des progrès pour chaque enfant et que c'est vraiment essentiel.
On peut sortir du stress?
on peut sortir du stress, les parents sont rassurés. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de familles qui sont venues me remercier parce qu'au départ, elles étaient angoissées. Elles ont fait confiance au monde enseignant. Elles ont suivi leurs conseils. Les enfants allaient mieux, même plus besoin de séances de psy, pour certains. Donc, c'était extraordinaire. Et chaque enfant franchit une marche supérieure. Il faut aussi savoir... Enfin, il ne faut pas être trop exigeant, trop angoissé. Il faut qu'il y ait du plaisir.
Écoutez, son bon sens, sa petite voix intérieure. Et puis, les enseignants, ça peut servir aussi. Tout de même, ils ont été formés pour. Merci à toutes les deux. Véronique Massier-Jacques, vous publiez « Il ne veut pas faire ses devoirs ». C'est très concret, très pratique. Il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup d'outils. Puis, ouais. je parle à chaque fois des besoins des enfants parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Peut y avoir plein de possibilités. Pourquoi ? Et je recense toutes ces possibilités.
Et il faut se poser toutes ces questions-là. C'est publié aux éditions Erol et vous êtes, on peut aussi vous retrouver sur le site internet Maman Positive. Merci à vous, Marie Herzog, institutrice. 38 ans de métier, maintenant une autre vie qui s'ouvre. Peut-être que vous passez à autre chose après 38 ans passés avec les enfants. Merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages et vos questions. Et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, lundi 7 milliards de voisins. Nous serons de retour en direct pour une nouvelle émission et surtout pour bien commencer l'année, jeune et optimiste. Allez, rendez-vous lundi.